Bélier, une émission présentée par Gérald.
Une émission présentée par Gérald et par Bernard. Ce soir, nous sommes tous les deux.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et j'ai rejoint momentanément le Bernard dans son bocal, dans son petit aquarium. Donc ce soir, c'est une émission spéciale, enfin spéciale. Toutes les émissions de Pluriel Gay sont des émissions spéciales. Ce soir, nous avons deux invités. Le premier sera au téléphone. Il s'agit de Didier Roth-Bétoning, nous connaissons déjà bien. Et nous aurons ensuite Desirless, qui nous a accordé une interview. Desirless, l'ami de l'émission Pluriel Gay, que nous avions déjà, donc, avec laquelle nous avions déjà réalisé une émission complète. Elle nous avait à ce moment-là accueillis chez elle dans le sud de la Drôme. Et là, elle était de passage à Lyon ce week-end pour le Super Bowl. Oui. Et elle nous a accordé gentiment une petite interview. Alors, on va commencer d'ailleurs, et ce sera aussi l'occasion de faire du Desireless à 100% au niveau musical aujourd'hui.
Je crois, oui.
Oui, voilà. Oui. D'ailleurs, on va commencer par Certao, qui est un morceau de... Parce que, inutile de rappeler, tout le monde le sait quand même, Desireless, c'est pas que Voyage.
Ah bah
Voyage
non.
Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est l'occasion de découvrir la production artistique de Desireless ces dernières années. On va commencer par Certao, et ensuite on aura Didier au téléphone.
Didier,
oui, tu bonsoir,
là.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien, bien rentré.
Eh bien, oui, un petit peu déçu d'être rentré si tôt, mais...
Oui. Oui, oui, parce qu'il faut dire que tu étais donc présent au Festival Écran Mixte, qui s'est achevé hier, mais tu as été contraint de rentrer plus tôt à cause des grèves annoncées à la SNCF.
Voilà, en fait, pas tellement à cause des grèves, par anticipation, j'étais un petit peu chargé, je me voyais pas trop galérer toute la journée de gare en gare, puisque mon trajet n'était pas direct, mais enfin, c'est une anecdote.
Alors, Didier Roth-Bettoni, on te connaît déjà bien à Lyon, à la radio, tu es souvent intervenu déjà à la radio, ici sur Pluriel Gay. On sait aussi que les lecteurs d'Hétéroclite savent que tu écris aussi des chroniques cinéma dans le mensuel Hétéroclite, le mensuel lyonnais.
Oui.
Alors, on rappellera jamais assez que tu es donc journaliste, écrivain, spécialiste, on va dire, historien du cinéma.
On va dire ça, oui.
Voilà. Et auteur notamment d'un livre, d'un ouvrage qui fait date, qui fait référence désormais, qui est l'homosexualité au cinéma.
Tout à fait.
Alors, tu as une actualité littéraire. On reviendra un petit peu sur cette actualité en fin d'entretien. Comme je le disais, le festival Écran Mixte vient de fermer ses portes. C'était donc hier soir, avec la projection en clôture du dernier film et en avant-première du dernier film d'André Téchiner. Donc le festival Écran Mixte, on sait aussi, Didier, que toi tu es un grand supporter depuis l'origine.
Je suis même le parrain du festival.
Voilà, et tu es le parrain du festival. Tu as d'ailleurs donné une conférence très intéressante au Goethe-Institut, puisqu'on sait que Écran Mixte est un mixte justement de nouveautés, mais aussi un mixte avec du patrimoine.
Tout à fait, oui.
C'est un festival qui est aussi dont une des colonnes vertébrales, c'est donc le patrimoine. Cinéma LGBT et queer. Cette année, donc, un coup de projecteur avait été donné sur l'Allemagne, sur deux films notamment, dont l'un qui est considéré comme le premier film gay, on dira militant, un film muet allemand dont on n'a qu'une partie en fait. Hein,
tout à fait, tronqué. Un film qui date de 1919.
Qui a été donc réalisé par Oswald et Hirschfeld. Hirschfeld, qui est le célèbre Magnus Hirschfeld, médecin du début
sexologue,
du...
oui.
Voilà, sexologue qui a beaucoup œuvré pour la cause LGBT. Alors, donc tu es intervenu dans le cadre de la diffusion de ces deux films, Und Victoria et Différent des autres, c'est le film de Hirschfeld. Tu as fait une conférence très intéressante, notamment sur le genre et le cinéma à l'époque pré-nazi, hein, on dira.
Tout à fait, oui. Mmh. L'idée, c'était de montrer que avant l'arrivée des nazis au pouvoir, le cinéma allemand était un cinéma très libre et très ouvert, notamment sur toutes les questions liées au genre et liées à l'homosexualité sous des formes un peu diverses, qui allaient du drame à la comédie, ce qui nous paraît assez inouï aujourd'hui à plus de 80 ans de distance, presque 100 ans pour le premier film, donc différent des autres. Ça, on n'a pas du tout cette image-là du cinéma allemand de cette période, et pourtant c'était un cinéma qui est extrêmement ouvert, précurseur par rapport à ce qui pouvait se passer dans d'autres pays à ce moment-là.
C'était en lien à cette époque, donc la République de Weimar, entre la fin de la Première Guerre mondiale et puis
l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933.
Voilà, ouais. C'était en lien avec une notamment à Berlin, une ébullition de la vie homosexuelle berlinoise.
Hein. Tout à fait.
Donc, une très belle évocation, en tout cas, par le film et par ta conférence. Alors, le festival Écran Mixte, ce n'était pas que ça, il y avait tout un ensemble. Alors, moi, les quelques séances auxquelles j'ai participé, tout était, on va dire, rempli comme un œuf. Je veux dire...
Oui, il y a eu beaucoup de monde, visiblement.
Voilà,
oui.
Il y a eu du monde, hein, que ce soit dans les grandes salles comme le Comédia ou au Pathé Bellecourt, pour l'ouverture et la clôture du festival qui était comble, mais aussi pour des salles plus intimistes qui restaient quand même pleines à chaque fois, hein, qu'il y avait toujours du monde. Et le Goethe-Institut dans lequel tu as donné les conférences, pour les deux séances, je crois, aussi était
bien rempli.
Il y avait du monde.
Une centaine de personnes dans au Goethe-Institut, ce qui est quand même beaucoup. Voilà.
Alors, je voudrais savoir un peu justement, toi, ton impression d'ensemble sur le cru 2016 de Écran Mixte.
Eh ben, c'est toujours un festival assez passionnant, justement, par rapport à ce que tu disais, sur qui arrive à marier des films inédits, des films nouveaux, et donc de présenter l'actualité, une certaine actualité du cinéma et de l'homosexualité au cinéma, et puis de redécouverte de choses plus anciennes, même si elles sont relativement récentes, mais de redécouverte notamment d'une œuvre. Et moi, j'ai suivi beaucoup pendant le festival. Ça a été l'essentiel de ce que j'ai pu vivre, la rétrospective consacrée à Alain Guiraudy,
oui.
Et qui était assez passionnante parce que c'est des films que j'avais vus, que ce soit les courts ou les longs métrages, mais de façon très éparpillée au fur et à mesure de leur sortie depuis une grosse quinzaine d'années. Et donc on voit, j'avais en tête un certain nombre de liens entre eux, un certain nombre de constances entre eux, mais les revoir là, regroupés sur quelques jours et à quelques heures de distance quelquefois, c'était frappant de voir la cohérence de cet univers, de voir la façon dont Guiraudy réussit à rebondir de film, en reprenant des plans qui se ressemblent, en reprenant des scènes qui sont quasiment les mêmes d'une histoire à l'autre. Il y a vraiment un univers assez incroyable qui m'a sauté aux yeux, beaucoup plus encore que ce que j'avais pu envisager en les voyant de façon éclatée. Là, leur regroupement donnait une impression de richesse, d'intensité et de puissance créatrice assez incroyable.
Oui, en plus, la rétrospective s'est déroulée à l'Institut Lumière, je crois.
Alors, il y avait une partie à l'Institut Lumière, les deux premiers films, enfin les deux derniers en date, mais qui ont été les deux premiers projetés, Le Roi de l'Évasion et L'Inconnu du Lac, ont été montrés à l'Institut Lumière, et tous les autres étaient montrés au CNP Bellecourt. Mais c'était tous en présence d'Alain Guiraudy, hein, c'est ça qui est toujours aussi très passionnant dans ce type d'événement, et notamment à l'écran mixte, c'est qu'il y a que les cinéastes, que les acteurs viennent et échangent longuement avec le public, parce qu'ils sont présents séance en séance, et de vrais échanges, de vrais contacts, de vraies discussions ont lieu, et Guiraudy a été très très généreux, quoi, sur ce qu'il a pu dire, sur la façon dont il a pu parler aux spectateurs. C'était vraiment des beaux moments.
Alors effectivement, beaucoup de personnalités étaient invitées, qui ont répondu présent. Alors Catherine Corsini, elle a eu un accident de ski.
Ouais, elle a déclaré forfait au dernier moment.
Elle a déclaré forfait, voilà. On lui dira que la prochaine fois, il ne faut pas faire de ski pendant la période du festival
d'écran
mixte.
Voilà. Exactement.
C'est vrai que c'est un sport dangereux. Voilà. Donc sinon, elle aurait dû être là, elle aussi, et du coup, suite à cet accident, elle n'a pas pu être là.
Alors, il y avait pas que cette rétrospective Guiraudy, hein. Il y avait quand même quelques d'autres films vraiment intéressants. Il y a notamment un film qui n'est pas encore sorti en salle, qui s'appelle De l'ombre il y a, un film français de Nathan Nikolovitch, qui est vraiment tout à fait impressionnant, autour d'un personnage de travesti prostitué au Cambodge aujourd'hui. Le film est d'une force assez incroyable, et il a des problèmes aujourd'hui avec son distributeur, et j'espère que ces problèmes vont se résoudre et qu'il va pouvoir être diffusé très largement en salle, parce que c'est un vrai choc esthétique, et notamment la découverte d'un acteur vraiment hallucinant pour le coup.
Alors il y avait donc effectivement beaucoup d'œuvres présentées comme chaque année au Festival Écran Mixte. Je sais aussi que la diffusion des courts-métrages qui ont été qui était une carte blanche en fait donnée au Festival In and Out de Nice, que tu connais aussi, tu connais bien ce festival.
Oui, a eu
un grand succès. Je crois que les œuvres.
Mais les séances de courts-métrages fonctionnent toujours très bien en festival, pour une raison très simple, c'est qu'on ne voit les courts-métrages nulle part ailleurs qu'en festival. Et c'est vrai que dans les festivals LGBT, c'est l'occasion de découvrir des films extrêmement variés, sur des tons très très différents. Ça va de la comédie au drame. Il y avait des films chantés, enfin des films musicaux dans la très très belle sélection qu'avait fait In and Out pour cette séance. C'était vraiment une séance magnifique. Il n'y avait aucun film faible. J'en connaissais un certain nombre, j'en ai découvert d'autres. Vraiment un très très beau programme, et c'est vraiment passionnant de voir les courts-métrages, parce qu'on voit émerger des talents qui arrivent en très peu de temps à montrer leur singularité et leurs pattes. Non, il y avait vraiment de très belles choses. Il y avait notamment un film que j'aime beaucoup, un film canadien qui s'appelle Retrace, de Jonathan Lemieux, que j'aime beaucoup puisque j'avais participé au festival In and Out à Nice l'année dernière, et j'étais dans le jury de ce festival, et on avait donné le grand prix du court-métrage à ce film, qui est vraiment une petite merveille, un garçon qui raconte son rapport avec son père, son rapport extrêmement violent avec son père, à travers des films de famille tournés en Super 8. C'est un film assez bouleversant.
Donc, toutes ces œuvres sont à suivre avec intérêt. Et donc prêt à revenir l'an prochain pour la 7e édition.
Si on me demande de revenir, c'est toujours avec plaisir. Et puis j'ai un peu l'impression maintenant, comme je viens quasiment depuis le début du festival, je crois d'ailleurs que j'ai pas raté une seule édition depuis 6 ans, j'ai un peu l'impression de revenir en famille, ou en tout cas de retrouver des amis chers que je vois à intervalles réguliers comme ça, et c'est un vrai plaisir.
Le plaisir étant amplement partagé, mon cher Didier.
Alors,
je rappelais aussi tout à l'heure, en début de l'entretien, je disais que tu avais une actualité littéraire. Or, il se trouve que, c'est tout à fait le hasard, hein, je pense, mais le vient juste de sortir en librairie, aux éditions Erosonix, un ouvrage, un livre que tu as écrit, qui est consacré donc à un cinéaste, peu connu du grand public, je dirais, mais bien connu en tout cas des festivaliers d'écran mixte, et puis d'autres, j'espère, aussi au-delà, c'est Philippe Valois.
Tout à fait.
Alors, pourquoi cet intérêt déjà pour ce cinéaste? Et rappelle-nous un petit peu rapidement qui est Philippe Valois.
Bah, Philippe Valois, c'est un tout petit peu provocateur et rapide ce que je vais dire, mais c'est d'autres choses aussi, mais c'est surtout, à mon avis, le grand cinéaste gay français des années 70-80. C'est-à-dire avant que des cinéastes très installés comme André Téchiné, comme Patrice Chéreau tournent des films sur l'homosexualité dans les années 80-90, ils parlent de leur propre homosexualité. Dès les années 70, Philippe Valois va être celui qui va amener très directement sa propre sexualité, sa propre homosexualité à l'écran dans des films tout à fait nouveaux, et tout à fait uniques dans l'histoire du cinéma, de l'homosexualité au cinéma, et notamment en France. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a une œuvre tout à fait originale, qui est toujours en recherche, complètement en marge, qui tourne avec les moyens du bord, et qui fait des œuvres vraiment très intimes, très personnelles, très touchantes, et avec une forme d'universalité dans leur façon de parler de l'homosexualité qui est assez sidérante. C'est pas du tout un cinéaste du discours, c'est un cinéaste du ressenti, de l'émotion, d'instinct, de l'évidence. Enfin, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui n'a malheureusement pas assez tourné, dont les films n'ont pas été assez vus, et j'avais envie de lui rendre hommage. Enfin, c'est un grand mot, puisqu'il est toujours vivant, qu'il est toujours en activité, qu'il tourne des films qui sortent essentiellement directement en DVD, mais qui continue à avoir une production très riche, et qui, comme tu le disais, est un familier d'écran mixte aussi, puisqu'il est venu à plusieurs reprises présenter certains de ses films.
Il faut savoir, bon, on peut considérer à t'entendre que Philippe Valois était un pionnier, mais aussi il faut se rappeler peut-être que dans les années 70, le cinéma qu'il faisait était considéré comme sulfureux quand même. Projeter les œuvres de Philippe Valois avait un côté, ça sentait le soufre dans les années 70.
C'était sulfureux, mais pas tant que ça, puisque quand même son film précédent avait été sélectionné à Cannes, le film qui s'appelle dont le titre m'échappe au moment où je te parle, Joanne, avait été sélectionné au Festival de Cannes. Donc,
pourtant, c'est un film à l'époque qui pouvait être considéré comme scandaleux.
Bon, oui,
Cannes ne reculait pas à l'époque devant peut-être ce genre d'œuvre non plus. Mais
ça veut dire quand même qu'il y avait une forme de reconnaissance quand même de la singularité de son cinéma et de sa force. C'est un cinéaste effectivement qui tourne avec des petits budgets, qui tourne avec des films d'un peu de bric et de broc au niveau des moyens, mais qui ne recule pas devant la représentation de la sexualité homosexuelle. Évidemment, tout ça il faut le reconnaître, mais c'est pas un cinéaste complètement au bord du bord de la marge, hein. C'est un vrai cinéaste, c'est un vrai auteur, un vrai créateur d'univers.
Oui, rien que pour Johan, que tu évoques, là, évidemment, il y a de véritables plans de cinéma qui sont de véritables tableaux cinématographiques
dans ce film. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça n'empêche pas qu'il a eu aussi des problèmes avec la censure, hein, qu'il a dû couper certains plans de sexe en érection dans le film pour pouvoir avoir un visa de sortie traditionnel. Le film date de 76. Voilà, il y avait à la fois une reconnaissance et puis des problèmes, mais c'est j'ai envie de dire c'est presque normal, quoi. Ce sont des artistes qui n'ont pas peur de leur ombre et qui qui montrent ce qu'ils ont envie. Enfin, il va avoir vraiment cette capacité-là.
Et donc, toi, tu as eu envie d'en parler, d'écrire sur Philippe Valois.
D'où oui, j'avais livre. Envie de... Mmh. En fait, j'avais envie... Alors, le livre est un petit peu complexe. Hein, enfin, complexe. Il est un peu... il est à plusieurs niveaux. Puisque l'idée du livre, c'est de partir d'un des films vraiment emblématiques de Philippe Valois, qui s'appelle « Nous étions un seul homme », un film qui date de 1979. Le DVD du film est d'ailleurs intégré dans le livre, ce qui permet de le voir ou de le revoir, avec un bonus tourné spécialement pour l'ouvrage par Valois lui-même. Donc, on part de ce film-là comme qui raconte l'histoire d'amour entre un soldat allemand et un jeune paysan français en pleine Seconde Guerre mondiale. On part de ce film-là qui a vraiment marqué une génération, même s'il a été très peu vu, c'est devenu très vite, tout de suite, un film culte, et ça l'est encore. Je vois bien les réactions des spectateurs quand ils le découvrent encore aujourd'hui. Donc partir de ce film-là qui est vraiment très fort et très particulier, très original dans le cinéma français des années 70, ouvrir plus largement sur la carrière de Philippe Valois, une carrière vraiment assez passionnante qui démarre au milieu des années 70 et qui se poursuit encore aujourd'hui, puisqu'il vient de tourner encore un film il y a quelques mois à peine, et d'ouvrir encore pour évoquer la question de l'histoire de l'homosexualité dans le cinéma français des années 70. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on voyait? Qu'est-ce qu'on ne voyait pas? Qui étaient les cinéastes un petit peu qui s'attaquaient à cette question? Donc voilà, c'est un livre qui permet à la fois de découvrir un film, une œuvre et au-delà une époque. C'est moi ce que j'avais envie d'essayer de parcourir ces trois niveaux. Ces trois niveaux, c'est un petit peu, je l'avais déjà fait dans un ouvrage précédent qui était consacré à un autre grand cinéaste queer, pour le coup anglais, Derek Jarman, qui travaillait essentiellement lui aussi dans ces années 70-80, qui étaient des années, des périodes extrêmement fructueuses, productives, inventives, et au-delà des différences entre Derek Jarman et Philippe Valois, il y a une sorte de famille quand même de ces cinéastes qui se coltinent à la question homosexuelle de façon frontale et de façon très singulière.
C'était aussi un peu l'époque qui voulait ça, les années 70.
Oui, en partie, mais l'époque voulait ça, mais c'était aussi, je crois aussi qu'il y avait une créativité qui était liée à un contexte politique, à un contexte qui était très différent de celui d'aujourd'hui, et que peut-être que le fait qu'aujourd'hui les choses finalement sociétalement, politiquement sur les questions homosexuelles, les questions LGBT soient moins à vif, encore que, ou en tout cas que les droits soient plus acquis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 70, rend peut-être les créateurs un peu moins audacieux. Je veux pas dire qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de cinéastes LGBT brillants, passionnants aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait peut-être des formes plus différentes, plus audacieuses, oui, dans les années 70-80. Mais ça, c'est peut-être un regard un peu nostalgique aussi et pas forcément réaliste. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent de façon assez magnifique.
Très bien. Donc, on va rappeler le titre du livre.
Alors, le titre est lui aussi à tiroir, hein, comme le livre, comme je le décrivais. Le livre s'appelle « Différent, nous étions un seul homme » et le cinéma de Philippe Valois.
C'est aux éditions Hérosonic. C'est, comme tu le disais, dans le livre, il y a un bonus, le DVD du film « Nous étions un seul homme ».
Voilà, et en plus de mon texte, il y a une petite biographie de Philippe Valois et le scénario intégral avec les dialogues du film, ce qui permet vraiment d'avoir une forme d'immersion dans ce moment vraiment important, je crois, de l'histoire des représentations de l'homosexualité dans le cinéma français.
Eh bien, en tout cas, Didier, merci d'avoir répondu présent à notre demande d'interview, d'entretien.
Merci à toi.
Une dernière chose avant de se quitter, mon petit doigt. C'est le petit doigt m'a dit que tu avais des projets encore, parce que tu as toujours des projets.
Malheureusement.
Et ça concernerait un personnage connu qui aurait fait carrière à Hollywood.
Oui, mais il y a très très longtemps.
Et il y a très longtemps, oui. Mais connu de la culture populaire, c'est quelqu'un de très connu de tout le monde.
C'était tout bêtement la plus grande star du monde à son époque, mais il est mort il y a 90 ans,
ouais.
À 31 ans, il s'appelle... plaît, Rudolf Valentino. Voilà.
Et toi,
il avait une beauté, une présence à l'écran assez incroyable, une modernité de jeu assez étonnante. Et moi, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Et là, je suis effectivement plongé dans la documentation la plus diverse et variée pour essayer d'en tirer quelque chose.
Très bien. Eh bien, en tout cas, merci Didier Rodbetoni, écrivain, journaliste, historien du cinéma, dont je rappelle le livre consacré à Philippe Valois, sorti aux éditions Erosonic. Je mettrai tous les renseignements sur les sites concernant notre émission Facebook et plurielgay.fr. Merci Didier, bonne soirée.
Merci.
Et à très très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Pluriel Gay. La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Non, non, pour tout l'ordure, hein, mon amour, je ne veux rien, rien de rien. Non, pour tout l'ordure, hein, ni pouvoir, ni mensonge, juste ta noble main. Je veux être conquise, sans magie, sans anneau, d'une libellule, par la force libre, sans convoitise, de ta lame sans peur que l'on nomme nos doumes. Les adieux que sans loi se scelle notre hymen, par la joie, le feu pur, sans stratagème, que nos cœurs amoureux traversent toutes les plaines et les 130 ponts du grand Danube bleu. Mon nom, pour tout l'ordure, hein, mon amour, je ne veux rien, rien de rien. Non, pour tout l'ordure, hein, ni pouvoir, ni mensonge, juste ta noble main.
Alors, mon petit Bernardo, en début d'émission, nous avons entendu un premier morceau de Desirleg qui s'appelle Certao, qui est donc extrait de son premier album en collaboration avec Operation of the Sun, on va prononcer ça à l'anglaise, hein, correctement. Et là, on vient d'entendre un deuxième morceau qui s'appelle L'Or du Rhin, donc qui est issu, lui, qui est extrait de l'album Noon, qui est le second album que Desirleg donc a réalisé en collaboration toujours avec Operation of the Sun. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur la Desireless du 21e siècle, et sa collaboration justement avec Operation of the Sun, il se trouve que nous sommes allés la trouver. Alors, Desireless, comme je le disais en début d'émission, on a déjà fait avec elle une émission complète où elle nous a parlé d'elle de avant Voyage-Voyage, de après Voyage-Voyage. Et là, elle était à Lyon à l'occasion d'un événement qui a lieu toutes les années depuis 4 ans, qui s'appelle Soup and Bowl, qui a lieu donc vendredi dernier, vendredi et samedi. Elle était là donc samedi, parmi d'autres artistes, elle n'était pas la seule. Et j'en ai profité pour aller lui faire une petite salutation, une petite bise. Et j'en ai profité pour faire une petite interview que nous allons entendre tout de suite. Interview en compagnie de Desireless. Desireless avait un gros besoin de manger et du coup nous allons l'interviewer pendant qu'elle est en train de manger sa charcuterie, son fromage.
Voilà, c'est très bon, un petit peu de pain, du beurre, du fromage.
Moi je vais en prendre un petit bout aussi, ça me donne envie. Thibault. Hein.
Donc Désiré, c'est avec nous, avec son équipe, son trio. Le trio est réuni, comme d'habitude, pour donc le Super Bowl aujourd'hui.
À ma droite, Antoine Arèche. À ma gauche, Titi.
Voilà. Antoine, donc, Operation of the Sun, le musicien. Il fait beaucoup de choses hein, autour de Desireless.
Il fait presque tout, même la cuisine.
Oui. Je croyais que c'était le rôle de Titi, moi, la cuisine.
Non, mais des fois, c'est Antoine. Il aime bien aussi.
D'accord. Titi, l'homme à tout faire, chauffeur, cuisinier, impresario.
C'est surtout mon compagnon.
Amoureux.
Ah, c'est beau l'amour. Donc, Desireless, si tu es ici à Lyon avec ton équipe, c'est parce que tu as été invité sur la scène du Super Bowl pour la deuxième année consécutive. Alors, qu'est-ce que le Super Bowl?
Alors là, on est en train de mâcher, tu vois, et on se demande lequel aura fini de mâcher le premier. En fait, il faut dire aux auditeurs qu'on a enregistré une première fois cette interview, mais que Gérald n'avait pas appuyé sur le bouton REC.
Ah non, c'est pas de ma faute, c'est le technicien. Gilles ici présent.
Je trouve la deuxième version presque mieux.
Avec les bruits d'un masque.
Alors le Super Bowl, qu'est-ce que c'est? C'est un festival caritatif au profit du foyer Notre-Dame des Sans-Abri à Lyon. Et ce qu'il faut dire, c'est que le Super Bowl, en fait, c'est donc un gros plateau d'artistes avec plein de gens, Emmanuel Moir. Angoun, Amir, alors moi je connaissais pas, j'ai découvert tout à l'heure à la Balance, et puis plein d'artistes 80, Thierry Pastor, Philippe Cataldo, Janis Jamison. Voilà, c'est un super festival qui est au profit des sans-abri de Lyon, et il faut dire qu'il est organisé par Fabrice Bonneau, qui est un grand chef lyonnais adorable, qui nous accueille super bien et qui fait vraiment une belle opération caritative, sincère et bien menée. Avec des super conditions techniques, enfin je pense que c'est un beau spectacle, voilà, qu'on soutient.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est la deuxième année, hein.
Exact.
Oui, c'est la deuxième année consécutive qu'ils sont là, Desireless et son équipe sont là pour le Super Bowl. Alors, Desireless, tu avais eu la gentillesse de nous accueillir chez toi dans ta superbe maison provençale du sud de la Drôme. Il y a déjà 3 ans, nous avions fait une émission au cours de laquelle on avait beaucoup évoqué, évidemment, la Desireless de Voyage Voyage et de John. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu plus parler, faire découvrir à nos auditeurs et à nos auditrices la production artistique après en tout cas Voyage Voyage et John, et surtout la production artistique avec donc Antoine. Tu nous avais à l'époque gratifié d'un morceau ou deux, même, je crois, un morceau en direct live, ça s'appelait Certao. Alors Certao, je crois que c'est un morceau qui est issu du premier opus que tu as travaillé avec Antoine.
Oui. Notre premier album, L'œuf du dragon.
L'œuf du dragon. Voilà, et non pas l'œuf des pigeons, quand même rappelé Titi. L'œuf du dragon, ça m'a fait rire, c'est pour ça que je le répète. Donc, Certao. Non, je couperai.
Oh non, on ne coupe pas.
Non.
Il ne faut rien couper. Rien du tout.
Donc on a ensuite, il y a eu ensuite plusieurs œuvres qui ont été produites. Alors une question qu'on se pose, c'est comment vous produisez justement, parce que vous n'êtes affilié à aucune maison de disques. Ça veut dire que vous faites tout vous-même, quoi. C'est du homemade à 100%.
Il faut pas fantasmer non plus les maisons de disques comme des méga consortiums qui font faire à d'autres. Elles font vachement par elles-mêmes, des fois avec des petits moyens. Et on connaît même certains producteurs de musique électronique pour des grandes radios comme Energy par exemple, qui font les choses sur leur petit MacBook Pro, sur leurs genoux, dans leur salon. Hein. Ça existe, il faut le dire. Voilà. Donc nous on fait ça aussi, simplement on bénéficie pas de la diffusion, on va dire, Energy. Pour le moment, peut-être un jour.
Par contre, dans votre production, c'est pas seulement du synthétiseur, on est d'accord, il y a de l'instrumentation, il y a de l'écriture.
Claudie, elle joue beaucoup de kazoo.
Claudie a déjà son organe pour elle, Desireless, donc hein, sa voix. Et toi, autour d'elle, autour de cette voix, tu as créé un nouvel univers musical
ensemble,
qui vous colle à tous les deux.
On fait tout ensemble. Ouais. Voilà, c'est une. On a deux.
Alors moi, je fais la main gauche.
Et moi, la main droite, c'est ouais. Ça. On a si je peux dire quand même qu'on a un peu deux visages. Desireless en 2016, c'est quand même d'un côté le spectacle Guillaume, qui est un spectacle de théâtre musical qu'on donnera pour la première fois le 4 juin au musée Guillaume Apollinaire en Belgique. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu musique acoustique, théâtrale, avec une marionnette minimaliste, très sobre. Et Dans l'autre visage de Désirless en 2016, c'est la musique électronique, technoïde, new wave, dansante. Voilà.
Avec un petit Antoine qui saute partout sur la scène.
Voilà. Bah, il saute maintenant.
Ah,
mais il a toujours
un petit zébulon.
Non, non, mais c'est vrai, il a raison, je saute de plus en plus haut.
Je saute de plus en plus vite.
Donc, entre le Love du Dragon et Guillaume, que Antoine vient d'évoquer, il s'est passé des choses aussi.
Il y a eu, alors, entre Love du Dragon, il y a eu Noon, un album complet que moi j'affectionne particulièrement. Je sais pas, c'était vraiment notre premier album un peu où on est rentré un peu en profondeur musicalement.
Il y avait
voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bel album. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis il y a eu un EP. J'en oublie, vas-y.
Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'album Noon, c'est vrai qu'on peut encore le découvrir. Il reste plus tellement de CD à acheter, enfin encore quelques-uns. Mais on peut aussi le redécouvrir gratuitement sur le site desireless.net, notamment à travers les remixes qu'ont réalisé un certain nombre de remixeurs. Sa version remix s'appelle Nexus. Voilà. Après Noon, donc, il y a eu Un seul peuple. C'est un CD sur lequel on retrouve la nouvelle version de Voyage et de John. Et puis enfin Guillaume, dont on vient de parler juste avant.
D'accord. Alors tu évoquais, Antoine, le site de Desireless. Il y a aussi la page Facebook. On peut quand même avoir des nouvelles de Desireless.
Oui, bah, il suffit de taper Desireless Facebook, page officielle. Et puis je suis derrière, là, derrière mon petit Mac.
C'est pas page officielle, c'est juste page officielle. Desireless tout court.
Je dis que des bêtises.
Mais pour autant, il faut pas croire, elle l'administre elle-même, Desireless. Elle est tous les jours devant son petit Mac et puis elle répond à vos messages pour ceux qui voudraient lui écrire ou prendre contact.
Non
avec
seulement
elle.
Je réponds, mais je publie plein de choses.
Par contre, juste le truc, si elle répond moins au coucou, ça va.
Ouais, coucou, ça va, en MP, c'est limite. Quoi.
Voilà, c'est dur parce qu'elle a 22 000 personnes. Mais par contre, si vous avez des questions précises, elle y répond avec plaisir.
D'accord. De toute façon, je remettrai toutes les coordonnées de tout ceci sur la page et sur le site de l'émission. Alors, une chose qui me taraude un petit peu, avec Gilles qui est ici à mes côtés, nous nous sommes souvent posé la question et nous pensons que Antoine est ton fils caché, en fait, des Ares.
Non, je crois qu'il a, une vraie maman.
Ah, il a une vraie maman.
Il a une autre, enfin, il a une autre maman.
J'avais une vraie maman et voilà. Maintenant, j'ai ma maman de substitution. C'est comme ça. Hein, la psychologie, la psychanalyse. Je l'expliquerai aisément.
Je crois savoir que vous avez poussé, la symbiose artistique à tel point que vous vivez ensemble. Sous le même toit.
Enfin, sincèrement, c'est des considérations très pragmatiques. C'est que c'est vraiment super simple de bosser à 5 mètres de distance. Et puis dès que Claudie, j'ai besoin de quelques voix, je lui dis Claudie, dès qu'elle a besoin de moi, elle sonne sa petite cloche. Et puis je viens voir un petit truc de son côté.
J'ai un petit bol, tibétain, en fait, près de mon ordi. Je fais ping.
Quand c'est vu la dernière fois, vous veniez en fait, c'était quand il y a 2-3 ans. Vous veniez de vous installer. Tu venais de.
Oui, si je me souviens bien, c'était en septembre 2013.
C'est ça, bravo.
Donc ça veut dire qu'effectivement, c'était le premier mois de mon installation qui devait d'ailleurs au départ être le dernier. J'avais demandé l'asile pour un mois et puis j'ai.
L'asile artistique.
Je ne suis pas encore reparti.
C'est beau.
C'est beau, c'est très beau. Merci en tout cas, Desireless, d'avoir joué le jeu. Alors j'espère que
d'avoir refait cette interview une deuxième fois.
Moi, on va vérifier si ça marche.
Gérald, je voudrais dire quelque chose. Dans cette deuxième partie, je trouve que j'étais un peu trop bavard. Est-ce que c'est parce que, avec Renaud, là, on est en train de voir une excellente affligaine, je ne sais pas. Mais je pense que ça serait bien que Desireless nous dise encore plein de petites choses.
Alors,
dis-nous plein de petites choses.
La pensée
alors,
du jour.
Plein de petites choses. Alors, par exemple, des bisous.
Ah bon.
Qu'est-ce que je peux dire? Amour. Création, joie, sourire, rire aussi, la mer, le ciel, les oiseaux, les différences, qu'est-ce que je pourrais dire encore comme mot? Le blanc, le bleu, le vert, le jaune.
De la poésie. Voilà.
La poésie, la vie.
Est-ce qu'il y a des rendez-vous prochainement qu'il faut noter
Des rendez-vous, alors toutes nos dates sont sur notre site desireless.net. Et après, comme rendez-vous, il y a notre petit pique-nique sac à poète le 14, 15, 16 mai. Je vous en dirai pas plus, il faudra aller voir un petit peu ce que c'est. Et puis, l'autre rendez-vous à la première de notre spectacle Guillaume. Tu l'as déjà dit?
Oui, tu peux revenir.
Donc, le 4 juin, en Belgique. À l'abbaye de Stavelot.
ça va bouger un peu ce spectacle, il va se déplacer dans d'autres...
Bah écoute, là on est vraiment au démarrage, on est encore en pleine répétition, on va voir comment ça se passe, on sait pas encore trop où est-ce, comment ça va se passer. Voilà.
Mais le disque existe déjà, on peut l'écouter, c'est ouais. Une idée de
l'ambiance. C'est l'album Guillaume. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On sera à la Gay Pride, donc à Fribourg.
Ouais. Le 25 juin. Et puis, de toute façon, on aura du mal à se rappeler toutes les dates, mais encore une fois, on vous renverra vers notre site internet desireless.net sur lequel vous retrouverez toutes les dates.
Très bien. Alors, un dernier point, justement, Desireless évoquait la Gay Pride de Fribourg. C'est une sorte de sainte laïque pour les LGBT, puisque j'ai vu aussi que tu es marraine du carnaval gay de Nice qui a eu lieu il y a quelques jours, Loucurnaval. Donc c'est vrai que...
Il y avait un char Desireless, non?
Non, il n'y avait pas un char Desireless,
non,
mais
elle était
marraine. J'ai vu qu'elle était marraine sur le site de Loucurnaval, du carnaval. Donc souvent, tu es sollicité finalement pour des événements liés au LGBT. Comment
oui,
se fait-ce?
Oui, pas mal. Ben, il se fait qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui aiment ce que je suis, ce que je fais. J'ai bien de la chance. C'est des gens souvent qui sont sensibles, drôles... créatif aussi. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein. Mais disons que peut-être il y a une propension à la fête, à la joie dans ce milieu-là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? J'ai beaucoup d'amis homosexuels, de très très bons amis.
Tu viens de la mode aussi, qui est un secteur.
Oui. Les artistes, voilà.
D'ailleurs, on n'a pas dit assez que tu crées aussi ta propre garde-robe.
Oui, bah, tu sais, il y a un seul patron, c'est une grande tunique avec deux manches qui tombent un peu. C'est intéressant.
Mais enfin bon.
Mais j'en suis très fière. Qu'est-ce qu'on peut dire encore?
Eh bien, c'est déjà pas mal.
C'est déjà bien.
Oui, c'est déjà beaucoup. En tout cas, merci à tous les trois.
Ben, merci à vous deux.
Et merci. Bon succès pour ce soir, donc sur la scène du Super Bowl à Lyon.
Merci,
à
merci.
À très bientôt.
Et merci pour ces deux interviews successives.
Et puis j'espère déjà rendez-vous sur ma page et Facebook, et puis en vrai, peut-être sur certaines scènes, voilà.
Avec grand plaisir.
Des gros bisous, soyez heureux, profitez de la vie.
Avec grand plaisir, on vous retrouvera tous. Merci.
Ciao, ciao.
Au revoir.
pluriel gay.
Alors donc, on vient d'entendre, tout le monde l'a reconnu, Voyage, Voyage, mais ça, c'est la version dont parlait Antoine Oresch, donc de Operation of the Sun pendant l'interview, la version de l'album Un seul peuple, donc la version 21e siècle de Voyage, Voyage, version exclusive Desireless et Operation of the Sun. Sur ce même album, d'ailleurs, Un seul peuple, on trouve aussi une version de John. Donc là, on va conclure l'émission, on va écouter du Desireless jusqu'au bout. Ça sera donc l'occasion encore d'entendre les sons de Desireless qui ont été évoqués, les albums ont été évoqués pendant l'interview. Ce qui va venir, donc c'est un morceau qui est hors album en fait, qui est tout seul, isolé, s'appelle Eleanor. C'est un single, donc qui est un single qui est doublé d'un clip vidéo d'ailleurs, qui est visible sur le net. La chanson s'appelle Eleanor et ce sera suivi d'un titre extrait donc de l'album Guillaume, donc comme on l'aura compris, hein, qui est une qui sont des vers de Guillaume Apollinaire, hein, mis en musique par Desireless, et chanté par Desireless et mis en musique par Antoine, chanté aussi par Antoine d'ailleurs, ils chantent tous les deux conjointement sur l'album. Alors ce qu'on va entendre, c'est une poésie que tout le monde a dû apprendre, je dirais, mais c'est une très belle poésie et surtout c'est très bien mis en musique par Desireless et Antoine. C'est Sous le pont Mirabeau. On va commencer par Eleanor et ensuite on aura Sous le pont Mirabeau. Et en tout cas, en attendant, mon petit Bernard, je te salue, je te remercie d'avoir bravé le temps apocalyptique de la soirée pour venir jusqu'ici et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs et nos auditrices la semaine prochaine sur la même onde, à la même heure, pour la même émission Pluriel Gay. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine. Eleanor, Desireless.
Pluriel, 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 pluriel. Yeah.
Arrivera-t-elle en vie ?
L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent?
Faut-il qu'ils m'en souviennent?
Venait toujours après la peine. Après la peine vienne la nuit sans l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Vienne la nuit sans l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Restons face à face, face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passe,
le pont de nos bras passe. L'amour s'en va comme cette eau courante,
comme cette eau courante.
L'amour s'en va comme la vie est lente,
comme la vie est lente.
Et comme l'espérance est violente,
Mirabeau coule la Seine.